7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est écrivain.
Bonjour Philippe Besson.
Bonjour.
Vous avez suivi Emmanuel Macron pendant un an de campagne jusqu'à la victoire. Votre livre sort aujourd'hui, un personnage de roman, c'est chez Julliard. Vous avez tout vu, tout entendu, mais avez-vous tout écrit ?
Oui, je crois que j'ai essayé d'être le plus honnête possible, le plus sincère, le plus exhaustif possible, voilà, oui.
Oui. Vous n'êtes pas censuré.
Non, je ne suis pas du genre à me censurer.
Emmanuel Macron vous a donc ouvert toutes les portes, vous avez rencontré ses proches, vous étiez avec lui dans son bureau le soir du premier tour, au moment où il écrit son discours, vous êtes seul avec lui et pourtant vous écrivez. Voilà des mois que j'écris sur lui, je devrais donc le connaître et pourtant je m'aperçois qu'Emmanuel Macron reste par beaucoup d'aspects insaisissable.
Oui, il y a une part irréductible de mystère chez lui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui paraît comme ça très ouvert, qui vous écoute, qui a un regard pénétrant, qui est proche de vous et pour autant il se livre assez peu d'une certaine manière et il a une humeur assez égale. C'est quelqu'un qui cède assez peu au découragement et assez peu aussi à l'euphorie. Donc on est toujours un peu déstabilisé face à lui. On est séduit et en même temps il y a quelque chose qui vous tient légèrement toujours à distance.
On va parler de l'homme, de ce que vous dites de l'homme, de son caractère, de ses humeurs comme vous dites. Mais avant ça, je commence par la critique qu'on vous opposera. D'ailleurs vous la devancez dans votre livre en disant « Mon risque à moi, Philippe Besson, c'est l'aveuglement, c'est de céder à sa séduction, d'être instrumentalisé, d'être manipulé. » Alors je vous pose la question, c'est la question mai 68, d'où tu écris, d'où tu parles, Philippe Besson, est-ce que c'est le romancier ou est-ce que c'est l'ami ?
J'imagine que c'est l'un et l'autre, c'est-à-dire je dis d'ailleurs dès le départ d'où je parle, c'est-à-dire je dis que je connaissais Emmanuel Macron avant qu'il décide de se lancer dans cette aventure. Il se trouve que je l'avais rencontré 2 ans auparavant et que nous avions sympathisé, que nous nous sommes rapprochés et que je me suis intéressé à ce personnage assez singulier, voilà. Et quand il se lance dans l'aventure présidentielle, je suis intéressé par ça parce que d'abord je suis surpris par sa détermination, sa résolution, sa conviction qu'il peut y arriver alors que moi franchement je pense qu'il va pas y arriver du tout et en même temps, je me dis, j'ai envie d'être partie de cette aventure. Mais fondamentalement, celui qui y va le connaît intimement, ce qui est à la fois, je pense, un atout, parce que j'imagine que quand vous connaissez les gens, ils se livrent un peu davantage. Et puis, je dirais que l'amitié n'interdit pas ni la lucidité, ni la franchise. C'est-à-dire, je me suis senti autorisé, justement, à parler de lui en le connaissant bien, en connaissant ses travers comme ses qualités, et en même temps, en me montrant le plus franc possible.
Et c'est un livre qui est bienveillant, mais pas complaisant. Ce qui marque le plus dans la lecture de ce livre, c'est de voir la détermination de cet homme, de ce jeune homme de 39 ans, sa radicalité presque dans la volonté, dans la détermination. Il dit d'ailleurs, si j'ai le moindre doute, je suis mort.
Oui, et il n'en manifeste pas. Il dit d'ailleurs, je dois offrir le visage de la Pietà ou je suis Saint-Sébastien crivé de flèche et rien n'apparaîtra. Il a la conviction très vite, effectivement, qu'il ne devra rien montrer. Alors je pense que c'est à la fois quelque chose à quoi il s'astreint, mais c'est aussi sa vraie nature, fondamentalement. Et du reste, quand il y va, beaucoup d'entre nous, je dis nous parce que j'étais dans le lot, se dit bon, il est en train de faire un tour de piste, c'est peut-être pour tester 2022, on n'en sait rien. Lui, pas du tout. Il dit, j'y vais pas pour faire la figuration, j'y vais pas parce que je pense que...
J'y vais pour gagner.
J'y vais pour gagner. Donc il y a effectivement chez lui quelque chose de très puissant. C'est assez troublant par moments. Ouais.
Ce qui est frappant aussi, c'est son obsession de la verticalité. Vous dites, il a très bien compris, il a une parfaite compréhension de l'inconscient monarchique des Français. On l'a vu le soir de la victoire au Louvre. Et puis vous nous livrez quelque chose, vous nous racontez que le jour où il fait sa déclaration de candidature à Saint-Denis, il demande à se recueillir dans la basilique de Saint-Denis. La basilique des rois, là où sont enterrés les rois de France.
Il vient de déclarer sa candidature, vous savez, Saint-Denis dans l'atelier, et puis il rentre au QG et il demande effectivement à ce que le convoi soit détourné vers la basilique de Saint-Denis. Et là, il est dans cette proximité et il va se recueillir. J'imagine qu'effectivement, d'abord, il s'inscrit dans une histoire longue qui est faite de rois, d'empereurs, puis de présidents. Et il a l'impression de devoir s'inscrire dans ça.
Donc, il est obsédé par ça.
Ah, il est absolument obsédé par ça.
Par l'idée d'incarner le côté monarchique.
Oui, et puis surtout, il a été, je crois, très agacé, pour ne pas dire mieux, mais par le fait que la présidence de la République soit devenue anecdotique d'une certaine manière, que tout se vaut, qu'on puisse parler à tout le monde, etc. Lui, il pense qu'il faut redonner du sens et de la hauteur. Donc j'imagine que c'est ça qu'il va chercher.
Un an de campagne, il y a un seul moment où vous voyez le doute, où vous le sentez fébrile, où vous sentez la panique dans son équipe et notamment chez sa femme. C'est la fameuse polémique sur la colonisation est un crime contre l'humanité.
Oui, là, ça tangue très fort. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on comprend qu'il a sans doute dit quelque chose qui va lui être fortement reproché. On se souvient, oui, le crime contre l'humanité. Et au même moment, il y a l'humiliation des opposants à la Manif pour tous. Là, dans l'équipe, on voit que ça peut être un moment de retournement. C'est-à-dire que les gens se disent, on va glisser dans les sondages. Et si on glisse là, maintenant, on n'arrivera pas à récupérer. Lui, sur le moment, il fanfaronne un peu. Hein. C'est-à-dire qu'il dit non.
Pardon, il fanfaronne souvent.
Oui, ils fanfaronnent souvent. Mais oui, c'est vrai. Vous avez raison. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de le reprendre 15 jours après, et de dire, OK, t'as fanfaronné il y a 15 jours, est-ce qu'on peut en reparler maintenant? Et là, il est capable, effectivement, d'avoir une analyse qui est de dire, oui, à ce moment-là, je comprends qu'il y a un souci, mais je dois rien montrer. Donc, il est toujours dans cette nécessité chez lui de ne rien montrer.
Vous le suivez sur le terrain, à la rencontre des Français. Vous dites qu'il doit rencontrer les Français parce qu'il doit casser l'image du banquier déconnecté. Et vous vous demandez, vous l'écrivain, vous le regardez, vous dites, est-ce qu'il est sincère? Est-ce que c'est du storytelling? Et vous concluez, c'est un peu des deux.
C'est un peu des deux. C'est-à-dire, je pense qu'il aime profondément le contact avec les Français. Ça se voit. Et d'ailleurs, il dit, on ne peut pas faire ce job-là si on n'aime pas ça. Parce que bon, si on répugne à aller vers les gens, à répondre à leurs questions, à leurs sollicitations, à faire des selfies, à les toucher, même à se faire parfois insulter, il ne faut pas le faire. Donc, on voit qu'il aime ça. Et en même temps, il a conscience de ce qu'il est au départ. C'est-à-dire, effectivement, un banquier, un libéral, un type qui est hors sol, qui n'avait aucune expérience politique, qui est jeune, dont on doute de la capacité à devenir président. Donc, il doit aussi sans doute raconter une histoire rassurante. Et puis, il a une maîtrise de la communication assez rare. Il a compris dans quel monde on vit, le monde des réseaux sociaux, le monde de l'image. Donc, il en joue aussi. Il n'est pas né de la dernière pluie. Hein.
Et ça, c'est obsessionnel là aussi. La distinction entre le jeune monde qu'il incarne et le vieux monde. Juppé se prend un tac, il appartient au vieux système, il n'a pas d'idées neuves. Et puis les intellectuels, tous les intellectuels dont beaucoup le critiquent, Onfray, Finkielkraut, Badiou, eux aussi se prennent un tac. Ils ne m'intéressent pas tellement, ils sont dans les vieux schémas, ils regardent avec les yeux d'hier, le monde d'hier. Je leur préfère des vrais penseurs comme Habermas, qui n'est pas vraiment le monde de... pas de prime jeunesse.
Non.
Mais c'est étonnant comme il intègre cela et comme ce qui n'est pas ce qui n'est pas selon lui dans le jeune monde est vieux et balayé.
Oui. Enfin, sur les intellectuels, il a un rapport un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il a le sentiment qu'ils ne produisent plus d'idées. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des commentateurs de l'actualité politique. Il dit que c'est des gens qui méprisent la politique, mais qui vivent de son commentaire. Donc forcément, ça l'agace un peu. Donc il préfère quand on situe un certain niveau de pensée.
Ce qui n'est pas totalement faux.
Ce qui n'est pas totalement faux, je crois, oui.
Les journalistes aussi, c'est pas une surprise. Ils les aiment pas, ils les méprisent beaucoup.
Non, les méprises, je pense que c'est faux. Je pense qu'il a un rapport compliqué, mais je suis beaucoup, sûr qu'il y a de mépris.
Beaucoup sont nuls. ce qu'il dit, moi je ne veux pas jouer avec les journalistes, ils me donnent des leçons de morale alors qu'ils sont dans le copinage et le coquinage depuis des années. Franchement, il y en a qui sont à la déontologie, ce que Mère Teresa était au stup.
La formule n'est pas mauvaise.
C'est très drôle.
C'est bien un peu du Audiard revisité. Ouais. Ça m'a plutôt fait rire quand tu m'as dit ça.
Il y a un problème avec les journalistes.
Je pense que là aussi, il tire l'enseignement de ce qui s'est passé dans les deux précédentes présidences, c'est-à-dire cette espèce de proximité permanente avec les journalistes, cette façon de tout commenter, de ne plus savoir ce qu'est l'important de l'accessoire. Lui, il veut s'en extraire. Effectivement, il revient à la verticalité, la rareté de la parole présidentielle, le fait de ne pas parler pour ne rien dire, et puis d'être sur son sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, pour avoir fait beaucoup de déplacements avec lui, vous faites un déplacement sur l'écologie, la permaculture, tout ce que vous voulez, et vous savez que tous les journalistes qui vous accompagnent vont vous interroger sur la dernière petite phrase de François Fillon ou de Benoît Hamon. Donc il est parfois accablé. Vous venez de faire 3 heures de déplacement au conservatoire de la tomate à Touraine et il se passe ça.
Ce qui n'est pas faux. La rotonde, j'assume totalement, on fait avec les gens qui ont fait et je les emmerde.
Je les emmerde, oui. Oui, il était... Parce que... Il faut avouer que c'était très curieux, cette polémique de la rotonde. Pourquoi ça prend? Parce que souvenons-nous quand même qu'il vient de se passer un séisme politique majeur dans ce pays. Le Front National est au deuxième tour, il a un nombre de millions de voix qu'il n'a jamais atteint.
Et lui,
donc on pourrait se dire, c'est peut-être ça qu'il faut commenter. Et il se retrouve avec le fait que la rotonde capte toute l'attention. Lui, il fête pas. Il y a l'idée, en tout cas, il célèbre avec ceux qui, depuis le début, sont là auprès de lui, les militants d'En Marche. Donc ça a été vécu comme une sorte de fouquette. Ça n'était pas ça du tout pour le coup.
Sur l'homme, il y a quelque chose de très intéressant. Vous soulignez ce paradoxe. Comment ça se fait que cet homme chaleureux, affectueux, tactile n'est pas d'amis?
Ouais, il n'a pas d'amis, très peu d'amis, parce que je pense qu'en fait, il a du mal avec l'intimité. Il est intime avec très peu de gens. Il cite souvent cette phrase de Diderot, qui est une façon de prendre la distance, qui est « Partout, il n'y aura rien, lisez que je vous aime ». C'est-à-dire qu'il est dans l'impossibilité de dire les choses. Et puis parce que sans doute, l'essentiel se joue dans le noyau familial. C'est-à-dire que je pense que ce sur quoi il se replie, c'est son épouse, sa famille. Là, l'essentiel se joue. L'intimité est là. Et la fragilité, d'ailleurs, est là.
Son talon d'Achille, il en a un.
Oui, c'est ça.
C'est quoi ?
S'il est attaqué sur sa famille, sur ses enfants et ses petits-enfants, quand par exemple...
Sur le fait qu'il n'ait pas d'enfants.
Oui, absolument.
Achille, vous dites.
Quand le 1er mai, Jean-Marie Le Pen, dans son adresse à Jeanne d'Arc, dit « c'est bizarre que cet homme veuille devenir président alors qu'il n'a pas d'enfants », voilà, il répond « j'ai des petits-enfants de cœur » et là, il est blessé.
Il a lu le livre et qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Que c'était le témoignage d'une intimité sans complaisance et sans compromission.
Philippe Besson, un personnage de roman, donc, sur Emmanuel Macron, chez Julliard, sur Emmanuel Macron et aussi sur Brigitte Macron, parce que je crois que c'est elle le vrai personnage du livre, mais on n'en a pas parlé ce matin. Il faut donc lire ce livre. Merci à vous.
Merci Léa Salamé.
Et belle journée.
Et merci à vous, Léa.